On retrouve.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Géopolitique depuis le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, le MUCEM, qui a placé l'Ukraine au centre d'un temps fort, 4 jours de conférences, tables rondes, débats, cinéma et concerts, pour évoquer ce pays au centre de l'actualité, pas seulement européenne. 4 jours qui viennent nous rappeler les liens entre la mer Noire et la Méditerranée, entre Marseille et Odessa, surnommée la Marseille slave. Ces deux villes, au demeurant jumelées, ont des histoires mêlées en même temps que semblables. Toutes deux ont connu la colonisation grecque dans l'Antiquité. L'architecture historique d'Odessa a par ailleurs été influencée par le style français, notamment. Le duc de Richelieu n'y est pas pour rien, qui, après avoir fui la Révolution française, officia comme maire puis gouverneur d'Odessa entre 1803 et 1814. Alors après ce petit détour historique, regard sur l'actualité ukrainienne à une semaine des élections législatives du 26 octobre prochain. Aujourd'hui, à l'automne 2014, où en est l'Ukraine? Entre Europe et Russie, où va-t-elle? Tour d'horizon de la crise ukrainienne avec Anna Garmash, militante ukrainienne, porte-parole du collectif Euromaïdan France. Bonjour.
Bonjour.
Elena Colombo, responsable de l'association Russie Liberté, militante pour les droits de l'homme et pour un soutien aux prisonniers politiques en Russie. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean Radvani, professeur des universités à l'INALCO, l'Institut français des langues orientales, co-directeur du Centre de recherche Europe-Asie, géographe et géopoliticien spécialisé dans l'étude de la Russie, de l'espace post-soviétique et du Caucase. Son dernier ouvrage, Retour d'une autre Russie, paru aux éditions Bordelot en 2013. Bonjour.
Bonjour.
Novembre marquera le premier anniversaire du soulèvement de l'Euromaïdan à Kiev. La semaine qui vient de s'écouler a été marquée par la rencontre à Paris entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le secrétaire d'État américain, John Kerry. Celle entre le président russe, Vladimir Poutine, et les dirigeants de l'Union européenne à Milan. Signe que les canaux diplomatiques sont là. Le contexte n'en reste pas moins tendu. En 6 mois, le conflit a fait, selon l'ONU, plus de 3600 morts, dont plusieurs encore ces derniers jours, malgré le cessez-le-feu signé le 5 septembre dernier à Minsk. Cessez-le-feu qui semble n'avoir de réalité que le nom. Au moins 350 soldats ukrainiens et civils sont morts depuis le 5 septembre. Comment les uns et les autres voyez-vous la situation aujourd'hui en Ukraine? Comment la qualifieriez-vous? Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas finalement avec les accords de Minsk? Anna Garmash.
En effet, on voit que les canaux diplomatiques semblent ouverts. Cependant, depuis le début de la crise, il y a toujours des discussions. Par contre, ces discussions n'ont l'air d'aboutir à rien. Donc il est compliqué de savoir qu'est-ce que les accords de Minsk ou qu'est-ce que les rencontres qui ont lieu justement cette semaine, qu'est-ce que ces rencontres vont apporter? Finalement, ça dure depuis très longtemps et vu comment ça se présente, ça risque de durer pendant bien, bien longtemps encore. Évidemment, tout le monde se pose des questions sur les plans de Vladimir Poutine puisque finalement, c'est surtout ça qui détermine l'avenir de la situation dans la région actuellement. Il y a énormément d'hypothèses à voir ce qui va véritablement arriver.
Jean Radvani, sur les plans de Vladimir Poutine.
Oui, il y a des plans de Vladimir Poutine, mais qui concernent à la fois l'Ukraine et qui concernent plus largement la sécurité en Europe et la façon dont les Russes conçoivent leurs intérêts de puissance qui est en train de se réaffirmer. Et bien sûr, c'est pas seulement le problème de Poutine, c'est le problème des Européens, c'est le problème des Américains et c'est aussi d'abord le problème des Ukrainiens. Les Ukrainiens qui doivent faire un certain nombre de choix. C'est très difficile. Tout le monde s'attend à ce que la période qui vient, au-delà des élections, soit très difficile. Il va y avoir un hiver qui va être très tendu. On a un cessez-le-feu, effectivement, qui n'est pas complètement respecté de part et d'autre. Il y a des... Alors, est-ce qu'ils sont dirigés? Est-ce qu'ils sont vraiment non contrôlés? Ce qui se dit dans certains articles. Toujours est-il que, effectivement, en dépit du cessez-le-feu, qui globalement est respecté, il y a des escarmouches et il y a encore des tirs d'artillerie, avec des morts. Visiblement, les séparatistes, enfin ceux de, donc du Donbass oriental, veulent élargir leur territoire. Ils veulent reprendre le contrôle de l'aéroport de Donetsk. Ils veulent peut-être gagner un corridor le long de la mer Noire par Marioupol. Voilà, ça c'est des objectifs stratégiques. En même temps, les discussions qui sont en cours, elles sont très importantes. Le fait qu'on n'en sache pas grand-chose, c'est pas forcément un mauvais signe. parce que, en définitive, s'il doit y avoir un vrai compromis et des vraies négociations, elles se feront, enfin, dans le secret, un secret raisonnable. Et donc, ça, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est très compliqué parce que ça implique. Moi, depuis le début, je dis que il faut que les Ukrainiens, les Européens et les Russes s'entendent sur un certain nombre de choses. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'on n'en a pas pris le chemin du tout dans les derniers mois.
Alors, s'entendre sur quoi? C'est effectivement ce qu'on abordera. Elena Colombo, quelques mots, et en réaction à ce qui vient d'être dit jusqu'à présent concernant ce cessez-le-feu, ces accords de Minsk.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Radvani a dit. C'est vrai que ce conflit ne semble pas du tout être ni terminé, ni même en cours de s'éteindre. Plus, les intérêts de la Russie et de Poutine, il ne faut pas les rendre identiques. Il ne faut pas dire que ce qu'il veut Poutine, ce que la Russie veut, mais c'est plus les intérêts de ce que s'appelle la verticale. Donc c'est les intérêts économiques et financiers qui sont pour l'instant en jeu dans cette guerre. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est plus le conflit entre, comme je disais tout à l'heure, le passé et le futur. Et si on voit la Russie se unir autour de Poutine dans ce conflit, dans cette guerre, c'est parce que justement ce que leur manque, c'est ce respect que se doivent, cet empire qui s'imaginait à l'époque de l'URSS. Et c'est pour ça que chaque écart, notamment de l'Ukraine, qui veut maintenant suivre la voie européenne, est considéré comme une rébellion et qui doit être réprimé au plus vite.
Alors on prendra le temps de se poser sur la façon dont les populations vivent cette situation depuis particulièrement un an. Alors Jean Radvani évoquait cette question des élections, donc des élections législatives le 26 octobre, c'est-à-dire dans une semaine. Quels sont les enjeux de ce scrutin? Qu'est-ce qui se joue pour Petro Porochenko, donc le président ukrainien, dont on peut aussi au passage faire peut-être un bilan, un agarmage?
Alors les élections sont en effet extrêmement importantes. Nous avons eu des élections présidentielles le 25 mai. Et c'était en fait la première étape, après la fuite de Yanukovych, d'un vrai changement de pouvoir, puisque depuis la fuite de Yanukovych, le pouvoir en place, c'est-à-dire les ministres qui étaient mis en place, c'était un pouvoir d'intérim. Le fait d'avoir des premières élections, c'est-à-dire les élections présidentielles, était un premier pas vers un pouvoir véritablement légitimé par la population. Les élections législatives, évidemment, c'est le deuxième pas, puisque nous avons, à date, nous avons toujours le même Parlement qui était en place encore à l'époque de Yanukovych. Donc le premier enjeu, c'est véritablement avoir un pouvoir légitime choisi par la population. Donc c'est extrêmement important. Pour Monsieur Porochenko en particulier, il est évidemment important pour lui d'avoir à date, enfin, les élections aussi vite que possible, tout simplement puisqu'il a été élu en tant que président avec un soutien massif de la population ukrainienne. Et l'objectif, c'est d'avoir évidemment un soutien aussi pour son parti lors des législatives. Comme pour tout homme politique, plus son mandat avance, plus il y a de déceptions. Donc évidemment, il est très important d'avoir pour lui, en tout cas, les élections législatives rapides pour surfer encore sur cette vague de popularité. Après, et évidemment aussi pour les Ukrainiens, c'est important tout simplement de voir un renouvellement aussi de la classe politique. De voir les anciennes personnes partir, dans la mesure du possible, évidemment, et d'élire une sorte de nouvelle génération. Après, évidemment, c'est compliqué. On peut revenir dessus si vous le souhaitez.
Effectivement, sur les transformations politiques. Mais j'ai cette question pour vous, Jean Radvani. On a vu 10 jours avant ce scrutin, donc cette semaine, il y a quelques jours, Vladimir Poutine, le président russe, annoncer le départ des troupes russes des régions de l'est de l'Ukraine. Est-ce que c'est un hasard?
Non, bien entendu, ce n'est pas un hasard. Depuis des mois, en fait, à chaque fois qu'il y a une échéance importante, une rencontre importante, et celle de Milan, évidemment, faisait partie de ces rencontres importantes, les Russes jouent un peu, voilà, ils jouent à cache-cache. Donc, ils retirent des troupes, ensuite ils les remettent. Enfin, c'est important. Et les Américains ont dit que, officiellement, ils ont constaté ce retrait russe et considéré que c'est un pas dans la bonne direction. En même temps, il y a beaucoup de choses qui doivent être résolues et elles vont être très difficiles parce que, au fond, il y a une sorte de déni de réalité de la part des trois grands acteurs de cette crise. Je pense qu'il y a un déni de réalité des Ukrainiens. J'entends par là la façon dont il analyse la situation de l'Ukraine telle qu'elle est dans le territoire qu'elle a hérité en 1991. C'est-à-dire, l'idée de la nation ukrainienne est une idée importante qui mobilise les Ukrainiens, mais qui est complexe parce que il y a des minorités très fortes, il y a des inégalités régionales, il y a une situation économique qui est très mauvaise. Et donc, d'une certaine façon, on a laissé entendre que l'accord d'association avec l'Union européenne, un certain nombre de mesures qui pouvaient être prises, allaient régler un peu, comme un coup de baguette magique, des problèmes très complexes qui sont de longue date et qui ne se régleront pas en quelques mois. Ça, c'est du côté ukrainien. Il y a un déni de réalité côté russe. C'est-à-dire que les Russes, c'est évident qu'ils veulent affirmer leurs intérêts de puissance qui est en train de se consolider. Dans ce cadre-là, ils ne supportent pas l'idée que quelques peuples de cette région, les Ukrainiens, les Géorgiens, les Biélorusses, les Kazakhs, aient une politique qui soit complètement indépendante de leur point de vue. Et ils ont toujours eu vis-à-vis des Ukrainiens une attitude très compliquée aussi, parce que les Ukrainiens, c'est à la fois le petit frère, comme on disait, c'est un peuple slave dont ils doutent que ça soit vraiment... Enfin, on trouve des écrits russes disant « c'est pas tout à fait une langue », c'est... Au fond, c'est l'idée. Les meilleurs Ukrainiens, c'est les Ukrainiens qui deviennent russes. Bulgakov, Tchekhov, Gogol. Voilà, il y a une espèce d'attitude qui est... Et en même temps, Kiev, c'est le baptême de la Russie. C'est-à-dire c'est à la fois leur histoire, il y a une sorte de vision extrêmement complexe, un peu mythifiée par les Russes de l'Ukraine, et surtout, voilà, cette idée que cette aspiration européenne, à la fois ils la comprennent parfaitement, les Russes, mais ils ne veulent pas qu'elle aboutisse à un certain nombre de conséquences, c'est-à-dire un rapprochement définitif. Ils ne veulent pas perdre leur moyen d'intervenir sur cette zone qu'ils considèrent comme leur zone stratégique.
Troisième déni de réalité,
c'est de la part des Européens et des Américains. C'est-à-dire, les Européens et les Américains, moi c'est comme ça que je l'interprète, hein, les Européens poussés par les Polonais, poussés par les Baltes, ils ont fait comme si la situation ukrainienne était simple. Et on n'a jamais voulu analyser ce qu'était l'Ukraine, nous, Européens. C'est-à-dire quels sont ses potentiels, quelles sont sa réalité économique, sociale, ethnique. Et donc on s'est planté. C'est-à-dire qu'on a imposé sur une situation politique très complexe un point de vue simple. Et on ne s'est même pas préoccupé de savoir ce que cet accord d'association aurait comme effet réel dans l'économie ukrainienne et dans les rapports entre l'Ukraine et la Russie. Or, ça j'en suis persuadé, il n'y a pas d'avenir pour l'Ukraine sans avoir de bonnes relations et avec l'Union européenne et avec la Russie. Donc si on simplifie l'analyse, si on impose un choix qui n'est pas équilibré, eh bien ça va être une catastrophe pour les Ukrainiens d'abord.
Elena Colombo, un commentaire sur ce que Jean-Advani vient de dire.
Un commentaire sur la difficulté de la situation en Ukraine également. En effet, chaque changement de pouvoir, surtout qui était fait par les révolutions, par Maïdan, c'est toujours assez difficile. Déjà, l'état économique du pays était assez affaibli par le gouvernement de Yanukovych et par d'autres paramètres par ailleurs. Donc maintenant, ça va jamais se faire rapidement. On sait qu'il y aura effectivement l'hiver et pas que celui-là qui sera dur. Le conflit avec la Russie signifie qu'il faudra choisir d'autres fournisseurs, d'autres partenaires économiques et culturels, parce que là, l'amitié ne se refera pas tout de suite, ça c'est sûr. Donc cette coupure, elle va faire souffrir l'Ukraine, c'est évident. En même temps, cette question d'identité ukrainienne que chaque Ukrainien maintenant se pose, elle est tellement importante que je pense qu'elle pourra leur aider de survivre à cette crise et de partir dans la bonne direction. Sachant qu'effectivement, du côté russe, c'est pour l'instant un déni total de la réalité, et ce qui s'explique par pas uniquement donc cette condescendance qu'on avait envers les Ukrainiens historiquement, mais surtout par la force de la propagande qui est très efficace, qui a été beaucoup testée pendant l'époque soviétique, et donc maintenant ça marche encore mieux, surtout que le peuple était préparé par des décennies de l'existence en URSS. Donc maintenant le peuple, il préfère de s'occuper des problèmes en Ukraine ou aller défendre les mythiques populations russes en Ukraine plutôt que s'occuper donc de problèmes dans son propre pays. Voilà.
Alors, pour en revenir au scrutin du 26 octobre, Anna Germain, je me tourne vers vous. Donc, ces élections législatives, quelle transformation politique peut-on en attendre? Et est-ce que le président Petro Porochenko se présente en position de force ou de faiblesse face à ce scrutin?
Alors, à date, il est, à mon avis, encore en position de force. Puisque lorsqu'on voit les sondages, on voit que son parti reste tout de même encore... c'est le premier parti. Donc, il risque d'obtenir le plus de votes. Ça, c'est assez clair. Pour l'instant, il est en position de force. Ce qu'on en attend, évidemment, un nouveau parlement, de nouvelles personnes, avec plus de volonté de réforme. C'est surtout ça, je pense. Lorsque, justement, Jean Radvani, tout à l'heure, parlait du déni de réalité du côté des Ukrainiens, mais surtout, en fait, des attentes vis-à-vis de l'accord d'association de la part des Ukrainiens, ce qu'on voit, c'est que les Ukrainiens se rendent bien compte des problèmes qu'il y a, des problèmes économiques, surtout, et des problèmes qu'il y avait jusqu'ici, enfin, qu'il y a toujours, des problèmes de corruption, des problèmes de non-respect des droits de l'homme, souvent, surtout à l'époque Yanukovych, d'autres problèmes du fait que la justice ne soit pas du tout impartiale. Ce qu'on attendait de l'accord d'association, ce n'est pas évidemment que, par un coup de baguette magique, il règle l'ensemble des problèmes. Mais par contre, qu'il permette d'avoir un certain cadre qui force, en fait, les dirigeants ukrainiens à mettre en place des réformes. Des réformes, certes, qui seront douloureuses, et tout le monde s'en rend bien compte. La population a absolument conscience de l'état économique désastreux du pays et le fait qu'il va falloir passer presque par une traversée du désert pour arriver à une situation meilleure. Mais la population se rend bien compte que c'est nécessaire et que c'est indispensable.
Si on devait les hiérarchiser, ces priorités en termes de réformes qui sont à faire en Ukraine, dans quel ordre les mettriez-vous, Anna Germain ?
Alors, c'est difficile à dire puisque les réformes sont toutes extrêmement importantes. C'est-à-dire, il y a des réformes économiques à faire, surtout des réformes, en fait, mettre en place des services qui permettront véritablement de lutter contre la corruption, des bureaux anticorruption. Ça, c'est extrêmement important, puisque si l'Ukraine aujourd'hui est dans un état économique aussi désastreux, c'est aussi dû au niveau de corruption absolument inégalé du régime de Yanukovych. Donc ça, c'est évidemment...
Et des régimes précédents.
Ah bah bien sûr, ça, faut pas le nier, mais je pense que c'est juste qu'il a battu tous les records. Ce qu'il faut absolument souligner, ouais, également. Donc déjà, un bureau qui lutterait contre la corruption. Évidemment, aussi, même si c'est une question qui est un peu plus polémique, mais déjà, il y a une loi qui vient de passer sur ce qu'on appelle la lustration, c'est-à-dire, en fait, une sorte de nettoyage, en fait, de la classe politique, des personnes qui sont coupables, que ce soit des crimes ou de corruption, de sorte à, tout simplement, à écarter ces personnes-là du pouvoir, des personnes qui ont de fait un passé criminel. Puis également des réformes, on va dire, économiques plus classiques, comme réformer le code fiscal. Évidemment, une réforme judiciaire absolument indispensable, de sorte à ce que la justice, finalement, soit impartiale comme on le souhaite, ou du moins s'en rapproche. Je ne peux même pas mettre une hiérarchie entre ces différentes réformes. Elles sont toutes indispensables.
Jean Radvani.
Deux choses. Effectivement, il y a un calendrier de réformes qui va être très complexe. On ne sait pas, en fait. Ce qu'on espère, c'est que de ces élections sortent un moment de stabilité politique avec un certain nombre d'initiatives. Et il faut qu'il y ait des initiatives, effectivement, dans le sens qui vient d'être dit. Et il faut aussi des initiatives vis-à-vis des régions orientales. C'est-à-dire, quel statut on va leur donner, on va leur proposer. C'est quand même très important. Parce que, il faut rappeler une chose, c'est que les élections ne vont pas avoir lieu dans une partie de l'Ukraine.
Voilà. J'allais y venir, dans les régions.
Et donc, ça va poser un problème. Non pas, je ne doute pas de la légitimité du nouveau parlement ukrainien parce que c'est la majorité, effectivement, des Ukrainiens qui vont voter une fois que la Russie a annexé la Crimée et qu'il y a deux régions qui sont quand même pas très importantes en termes démographiques qui ne voteront pas. Mais surtout, ce que l'on craint un peu, c'est qu'en dépit de ce nouveau Parlement, la situation économique et sociale soit tellement difficile qu'on se retrouve dans une situation un peu comme en Grèce. Et on ne sait pas comment va réagir la population, parce qu'on a vu qu'elle est réactive. Elle a réagi sur le Maïdan. Elle peut réagir une seconde fois vis-à-vis d'une situation qui risque d'être intolérable. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment nécessité de rencontres comme celle de Milan. Parce que, encore une fois, moi, je ne pense pas que l'Ukraine puisse se sortir en se tournant seulement vers l'Union européenne. Parce qu'on sait dans quelle situation est l'Union européenne. Et il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas les ressources. On peut supporter un pays comme la Grèce, on ne supportera pas 45 millions de l'Ukraine.
Vous écoutez RFI.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Elena Colombo, Anna Germain et Jean Radvani, dans quelques instants.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Ukraine depuis le MUCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille. Le MUCEM qui a placé l'Ukraine au centre d'un certain nombre de manifestations ce week-end, notamment autour d'Odessa, surnommée la Marseille slave. Sur la mer Noire, Odessa, d'ailleurs jumelée avec Marseille, partage avec cette dernière une histoire semblable. Dans l'Antiquité, des colonies grecques se sont établies dans leur port. Plus tard, les deux villes ont beaucoup commercé ensemble. Nous retrouvons nos invités. Anna Garmash, militante ukrainienne, membre du collectif Euromaïdan France, Elena Colombo, membre de la Ligue des électeurs, observatrice aux élections présidentielles en Russie, militante pour les droits de l'homme et responsable de l'association Russie Liberté, et Jean Radvani, professeur des universités à l'INALCO, l'Institut français des langues orientales, co-directeur du Centre de recherche Europe-Asie, géographe et géopoliticien spécialisé dans l'étude de la Russie, de l'espace post-soviétique et du Caucase. Alors la rencontre de Milan, elle vient en aval d'un contrat qui a été signé, Jean Radvani, en mai 2014 entre l'Union européenne et le gouvernement de Kiev avec Monsieur Brodchenko, dans le cadre donc d'une aide pratique à la préparation des réformes et un processus de transition. Un contrat signé pour un programme de 355 millions d'euros. C'est une certaine somme, peut-être pas suffisant, mais ce qu'on voit tout de même dans cette crise ukrainienne, je m'adresse à tous les trois, c'est quoi qu'il en soit, et même si aucune décision n'a été fondamentalement prise, il y a tout de même ce rapprochement. En tout cas, il y a une réactivité, peut-être tardive, de l'Union européenne, mais on avance dans la prise de conscience de la nécessité de donner un coup de main à l'Ukraine. Jean Radvani.
Oui, sans doute. On a une vue un peu plus réaliste, sans doute, des problèmes, par nécessité, bien sûr. Le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle est très divisée. Donc, il n'y a pas de stratégie européenne. On est capable de proposer des cadres législatifs, des cadres de réforme. Ça, on sait faire. On l'a fait pour les pays d'Europe médiane. On l'a fait pour les Baltes. Ça, on sait faire. Sauf que ensuite, il faut que les conditions politiques locales, il faut que les conditions économiques locales. Or, l'Ukraine n'adhérera pas à l'Union. Donc là, on est dans une situation qui est quand même nouvelle, différente. Les Géorgiens, on a vu comment, dans le cas de la Géorgie, qu'il y a eu un peu des choses semblables, comment ça s'est passé. À la fois, il y a eu de vraies réformes, c'est-à-dire que M. Saakashvili a lancé vraiment des réformes très importantes, peut-être trop volontaristes d'ailleurs. Sauf qu'ensuite, il y a eu les tentatives malencontreuses de récupération des territoires sécessionnistes. Et aujourd'hui, la Géorgie a perdu un tiers de son territoire. Donc voilà, il faut quand même peut-être mieux éviter qu'il se passe la même chose en Ukraine.
Alors pour en revenir aux élections donc du 26 octobre, élections législatives, comme le disait Jean Radvani, on ne votera pas dans les régions orientales de l'Ukraine. Elena Colombo, ces régions-là ont leur propre calendrier. Avec des élections organisées début novembre, des élections présidentielles, des élections législatives. Avant de savoir si elles auront lieu, la question qui se posait était de savoir si éventuellement Vladimir Poutine pourrait s'arranger pour qu'elles n'aient pas lieu. Qu'est-ce que l'on peut dire sur le plan politique de ce qui se passe dans ces régions orientales, Elena Colombo?
Si on espère avoir une réaction de Vladimir Poutine, il a la tendance toujours de garder la distance par rapport à ce qui se passe dans les régions comme la Crimée, par exemple, ou Donbass, parce que à chaque fois, il dit mais c'est leur pays, donc c'est à eux à faire les élections, c'est leur choix. Il insiste là-dessus. Il a jamais accepté ou admis le fait qu'il y avait des intervenants russes là-bas sur place tout autant pendant le référendum de Crimée, tout pareil à Donbass. Donc, selon lui, il a aucune influence sur la situation. C'est vrai qu'il y aura pas d'élection dans ces républiques. Je sais que de l'expérience de Crimée, par exemple, pour assister aux élections présidentielles, les gens ils devaient se déplacer sur le territoire ukrainien, les habitants de Crimée, pour pouvoir voter, ce qui donc engendrait les frais de déplacement, il fallait être absent à leur travail, etc. Donc c'était assez difficile, donc leur droit de vote n'a pas été respecté. C'est tout pareil pour les habitants de Donbass. Maintenant, ils pourront pas certainement assister aux élections ukrainiennes pour cette raison, parce qu'il faut traverser les territoires où il y a la guerre actuellement. Et forcément, ils feront leurs élections à eux, dans leur coin. Et je ne sais pas si la Russie, elle va admettre avoir l'influence là-dessus.
Alors, quelques mots sur les citoyens donc de ces régions orientales de l'Ukraine. Comment vivent-ils la situation? Que veulent-ils? Et finalement, est-ce que les séparatistes de ces régions ont et reçoivent un appui massif des populations, Anna Garmage?
Effectivement, la question est importante, et surtout ce qui est important de savoir, lorsqu'on se demande que veulent-ils, alors qui exactement? Est-ce qu'on parle de la population? Est-ce qu'on parle des séparatistes? Puisque ce sont finalement deux choses différentes. Lorsqu'on parle des séparatistes, il s'agit de groupuscules finalement qui sont pas, en tout cas qui sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de la population, voire pas du tout même, qui d'ailleurs comportent en très très large partie des citoyens russes et non pas des citoyens ukrainiens, qui en font partie bien sûr, mais qui sont minoritaires. Et d'un autre côté, nous avons une population, c'est-à-dire des personnes vivant sur ce territoire-là, des personnes qui finalement n'avaient presque rien demandé. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les sondages, évidemment la première préoccupation, c'est tout simplement d'avoir la paix dans cette région. Les gens, ils souhaitent qu'il y ait plus de tirs dans les rues, les gens, ils souhaitent vivre tranquillement en paix. Évidemment. Après, lorsqu'on pose la question, est-ce que vous souhaitez que la région soit en Ukraine ou en Russie? Pour beaucoup, les gens ne savent pas forcément quoi répondre, mais majoritairement, ils souhaitent quand même vivre en Ukraine. Il y a, oui, une partie minoritaire qui souhaite être en Russie. Selon les sondages que j'ai pu voir, nous avons à peu près 75% de la population qui dit vouloir être en Ukraine. Et pour le reste, les autres 25%, c'est soit la Russie, soit ils se sont pas forcément décidés.
Parce que de fait, Petro Porochenko a fait des concessions depuis qu'il est au pouvoir. En mai, il a proposé un certain nombre de choses pour ces régions orientales, davantage d'autonomie. Vous allez peut-être pouvoir nous détailler les mesures, mais est-ce que finalement tout cela ne suffit pas, Anna Garmage?
En effet, ça dépend à suffire à qui. C'est-à-dire que la population du Donbass, c'est difficile aujourd'hui de dire, enfin, personne n'a fait de sondage, que cela vous suffit. Lorsqu'on regarde les groupuscules des séparatistes, manifestement, ils n'arrêtent pas leurs actions. Manifestement, ils sont toujours en train de mener la guerre, telle qu'elle est aujourd'hui. Ce qui montre le fait que, non seulement ça leur suffit pas, mais ils s'attendaient pas vraiment à ça. C'est que leurs objectifs sont tout à fait différents de ce qu'ils ont obtenu avec la loi qu'a fait voter Monsieur Porochenko. Absolument. Puisque, comme vous l'avez dit, la nouvelle loi, en fait, leur permet d'avoir plus d'autonomie, leur permet d'avoir un peu plus la main sur les dirigeants des régions, plus d'autonomie économique également. La guerre continue. On le voit bien.
Elena Colombo?
Oui, je suis d'accord et pas tout à fait d'accord avec Anna Garmage par rapport à la population, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même, pas une minoritaire, mais une grosse partie de population qui souhaitait rejoindre la Russie pour une certaine nostalgie de l'époque soviétique, pour l'envie d'avoir des salaires plus importants ou des retraites plus importants, parce que cette région, quand même, il y a beaucoup de personnes âgées. Et donc, eux, ils observaient ce qui se passe en Russie, ils croyaient que les retraités russes, tout simplement, ils sont mieux payés. Donc, il y avait cette envie-là de rejoindre la Russie pour rejoindre un petit peu le passé et rejoindre la vie tranquille. Mais c'est pas du tout ce qu'ils ont obtenu actuellement. Et ce qu'ils ont obtenu, c'est la destruction massive de leur ville, de la guerre, les morts qui reviennent à leur famille. En même temps, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord, c'est pas représentatif les séparatistes qui mènent la guerre actuellement là-bas, parce que à peu près 10% de ces séparatistes, ce sont les sortissants de la région. Il y a également une grosse partie de volontaires, de bénévoles qui viennent de Russie, un petit peu empoisonnés par la propagande qui se fait énormément sur la télévision russe. Il y a également les militaires qui sont soi-disant en congé parce que donc ils faisaient leur service militaire sous contrat, et ce contrat a été rompu la veille de leur renvoi en Ukraine. Donc il y a beaucoup de mensonges dans cette situation. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec la région, qui font partie de troupes séparatistes. Donc maintenant, pour demander que veut la région et la population de la région, mais c'est vrai, la question est qui? Parce que les séparatistes qui veulent séparatistes et ce qu'ils veulent les civils, les pauvres bonnes femmes, les pauvres familles avec les enfants qui veulent tout simplement avoir la paix, avoir leur travail et gagner suffisamment pour mener tranquillement leur vie dans leur maison et pouvoir travailler sur leur potager, parce que c'est vraiment très agricole en même temps que c'est la région de mine. Donc voilà, ce qu'ils voulaient à la base, c'est d'avoir la vie meilleure. C'est pas du tout ce qu'ils ont obtenu.
Jean Radvani.
C'est difficile de savoir exactement l'état d'esprit, parce que avant la guerre, avant la partie conflit armé, probablement, y compris les Russes et les russophones du Donbass, souhaitaient plus d'autonomie au sein de l'Ukraine. Et certainement, l'aspiration européenne, ils la partageaient parce qu'ils espéraient bien que, en même temps que des réformes démocratiques, etc., il y aurait une élévation du niveau de vie. La situation a pas mal changé parce qu'il y a eu énormément de destructions dans les grandes villes du Donbass oriental. L'artillerie ukrainienne a canonné de façon indifférenciée les populations civiles. Il y a eu beaucoup de morts parmi les civils et ça a marqué les gens. Il y a 1 million de réfugiés ukrainiens en Russie, selon les chiffres du comité des migrations de la semaine dernière. Sans doute qu'une partie va revenir, mais pas tous. Donc on a une situation qui n'est pas simple. Et d'autre part, quand ils aspiraient à aller en Russie, c'est pas un retour au passé. C'est qu'ils savent pertinemment qu'on vit mieux. Le développement des régions russes limitrophes a été plus rapide que le Donbass oriental. Le Donbass oriental, c'est une région en crise, c'est une région minière en crise. Et elle va l'être encore plus à l'avenir. Donc voilà, on est dans cette situation, si bien que je suis pas sûr que les sondages qui soient effectués en ce moment au Donbass oriental puissent être vraiment très fiables. Mais la situation a changé, en tout cas, ça c'est sûr. Et donc ces groupuscules, effectivement armés, ils instrumentalisent cette situation, mais sans doute le rapport a changé dans la région.
Alors on a évoqué le risque de voir le sud de l'Ukraine basculer aussi dans la guerre avec ce projet qui est prêté à Poutine de relier donc les provinces orientales d'Ukraine à la Crimée en amenant ainsi tout le sud de l'Ukraine dans une connexion. Est-ce que ce risque est très présent à Nagarmach?
Alors, ce qu'on voit, en effet, c'est que le Donbass oriental, donc finalement la seule région touchée, qui est finalement assez limitée, assez petite, on voit clairement que par rapport au projet initial de Poutine, c'est un échec, puisqu'il voulait déstabiliser une région qui était beaucoup plus importante que ça, et en effet faire le lien entre l'est de l'Ukraine et la Crimée, de sorte à ce qu'il y ait un chemin, un passage, parce qu'aujourd'hui, la Crimée, par rapport au territoire russe, c'est comme si c'était une sorte d'île, puisqu'il n'y a pas de lien territorial entre la Russie et la Crimée. En termes d'attitude de la population, on voit très clairement que les régions qui sont à l'est de l'Ukraine aujourd'hui, même dans la région de Mariupol, qui finalement fait partie de la région de Donetsk, lorsqu'on voit les attitudes de la population dans ces régions, on voit qu'elles sont extrêmement craintives. Elles veulent absolument pas que la guerre vienne dans ces régions-là. Les habitants de Mariupol ont creusé des tranchées autour de la ville et dans la ville, de sorte à pouvoir se défendre lorsque les séparatistes vont venir. C'est quelque chose qui est extrêmement marquant. Dans les autres régions, les attitudes anti-guerre, pro-pouvoir ukrainien sont bien entériné également. Tel que je vois les choses aujourd'hui, il y aura probablement une tentative de la part de M. Poutine, en effet, de déstabiliser ces régions-là, mais ça va être beaucoup plus compliqué que ça ne l'a été dans le Donbass oriental. Là où la population, en effet, était un peu prise par surprise, la population avait du mal à s'orienter aussi en termes de ses attitudes. Aujourd'hui, dans les autres régions, il est très très clair comment elle perçoit la situation. Ils ne veulent pas que la guerre vienne chez eux.
Partagez l'un et l'autre, Jean Radvani et Elena Colombo.
On ne sait pas exactement. Vladimir Poutine n'a pas publié ses plans stratégiques, donc on ne sait pas exactement. Moi, je crois que les Russes, ils ne veulent pas annexer l'est de l'Ukraine. Ce n'est pas du tout leur intention, d'autant moins qu'ils savent que ce sont des régions en crise et que c'est un vrai boulet. Ça va être un boulet économique et social. Par contre, ils veulent garder la main. Et je pense que la stratégie de Poutine, c'est plutôt une stratégie de type Transnistrie, c'est-à-dire ce petit territoire moldave qui échappe au contrôle de Chisinau.
Voilà, une zone grise.
Une zone grise qui, dans l'esprit des stratèges russes, ça signifie que l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'OTAN, puisque une des clauses de l'admission de l'OTAN, c'est qu'il n'y ait pas de territoire disputé. Ça permet d'exercer une pression sur Kiev. Et ensuite, ça va dépendre de l'évolution générale en Europe et en Ukraine. Cette zone grise sera activée ou au contraire, petit à petit, apaisée.
Alors, à propos d'apaisement, en fait, j'ai deux questions en une quasiment. Est-ce que finalement une réconciliation ou en tout cas une nouvelle homogénéisation de la société ukrainienne est possible? Et Jean Radvani l'évoquait tout à l'heure, l'hiver approche.
Vous parlez également de la région de Donbass?
Oui, Elena Colombo.
C'est difficile à dire de la situation actuelle. La réconciliation, il y a beaucoup de haine maintenant de deux côtés, qui est également engendrée par la guerre informatique qui se fait entre donc les deux télévisions et tous les médias russes et ukrainiens. Rien n'est impossible. Il y a un travail difficile de se faire comprendre, tout simplement. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre du côté ukrainien. Je ne sais pas. J'ai vraiment pas de réponse à cette question. Je ne sais pas si
Anna Garmash.
Je pense que c'est même difficile de parler de réconciliation dans la mesure où il faut surtout parler de la cohésion du peuple ukrainien, la façon dont il se voit lui-même, de l'identité ukrainienne. On dit souvent en blaguant que finalement personne n'a jamais fait plus pour la cohésion des Ukrainiens entre eux que Vladimir Poutine, puisque les gens se sont finalement soudés contre cette guerre, contre Vladimir Poutine, contre un agresseur. Donc ça a été un facteur extrêmement important. Sinon, ce qui est aussi très important à souligner, c'est que l'Ukraine, avant l'indépendance de 91, n'ayant eu que très très peu la possibilité d'avoir son propre État, l'Ukraine a toujours eu une identité qui se formait autour d'un peuple, d'une culture et donc d'une langue. Aujourd'hui, sachant que l'Ukraine est indépendante donc depuis 23 ans, cette identité évolue à la vitesse de la lumière. En passant d'une identité plus basée sur des conceptions ethniques, aujourd'hui, ça devient véritablement une identité républicaine. On n'a pas besoin de parler ukrainien pour être ukrainien. On n'a pas besoin d'être ethniquement ukrainien pour être ukrainien. C'est vraiment un sentiment d'appartenance qui se développait déjà en amont des événements du Maïdan, en amont de la guerre d'aujourd'hui, et qui maintenant évolue à la vitesse de la lumière, véritablement. Donc je n'ai aucun doute par rapport à la cohésion des Ukrainiens. Après, il est évident qu'il faut absolument faire en sorte que les habitants aujourd'hui de la région du Donbass oriental soient embarqués là-dedans, tout simplement parce que c'est très difficile pour eux de voir la destruction qu'il y a dans leur région, de voir tout cela. Ils sont pour beaucoup aussi désorientés. Et c'est très très important de les embarquer dans cette tendance-là, qui est primordiale aujourd'hui pour la société ukrainienne.
Jean Radvani.
Je suis assez d'accord avec ça, mais ça va être très très difficile. Parce qu'en fait, toute la question, c'est ça. Je pense qu'effectivement, les actions russes en Crimée et en Ukraine orientale ont accéléré la prise de conscience et la cohésion de la population ukrainienne. Le problème, c'est qu'elle s'est faite sur une Ukraine démembrée. Et donc, si effectivement on veut rétablir l'ensemble du territoire ukrainien, il va falloir surmonter un certain nombre de handicaps. Or, l'histoire récente de l'Ukraine, c'est quand même que cette question est douloureuse. La question de la langue est douloureuse. Je pense sur les 20 dernières années, pas seulement, et qu'il y a des incompréhensions de part et d'autre. Et souvent, il y a eu dans l'histoire récente, avant Yanukovych, des tentatives de simplifier cette question, d'accélérer le processus. Or, c'est des processus qu'on ne peut pas accélérer. C'est-à-dire les processus d'identification, les processus de cohésion linguistique, culturelle, on ne peut pas les accélérer. Ils prennent du temps. Et si on veut les accélérer, on heurte les gens. Et du coup, on a des tensions qui rejaillissent sur d'autres plans.
C'est la fin de Géopolitique enregistrée à Marseille depuis le MUCEM, le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Le MUCEM qui a placé ce week-end l'Ukraine au centre d'un certain nombre de manifestations. Merci à nos invités Anna Garmash, militante ukrainienne, membre du collectif Euromaïdan France, Elena Colombo, membre de la Ligue des électeurs, observatrice aux élections présidentielles en Russie, militante pour les droits de l'homme et pour un soutien aux prisonniers politiques en Russie, responsable de l'association Russie Liberté, et Jean Radvani, professeur des universités à l'INALCO, l'Institut français des langues orientales, co-directeur du Centre de recherche Europe-Asie, géographe et géopoliticien spécialisé dans l'étude de la Russie, de l'espace post-soviétique et du Caucase. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, ou si votre connexion est difficile, sur m.rfi.fr, qui est la version simplifiée de notre site mobile, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin et Bertrand Éclair à Marseille, Véronique Durand et Nathalie Laporte à Paris avec la contribution de la documentation. Demain, Géopolitique recevra Bertrand Badie et Dominique Vidal autour de l'édition 2015 de l'État du Monde.